Donc la fois dernière, j'ai pas fait la moitié de ce que je voulais dire, mais bon, en même temps, il faut que j'apprenne un peu le rythme. Hein. En 20 minutes, on peut pas dire grand-chose non plus. La semaine dernière, j'avais simplement voulu montrer comment l'Église était développée, comment la paroisse était finalement la conséquence du développement de l'Église, c'est-à-dire que c'était la première communauté chrétienne toute petite qui se développe, qui devient missionnaire, qui s'implante, c'est ainsi que s'implantent les diocèses, les apôtres structurent l'Église en imposant les mains à certains hommes qui vont devenir des évêques et ensuite qui vont s'entourer de prêtres et de diacres. Et puis ainsi va se développer l'Église et une paroisse finalement, elle est définie un peu dans les Actes des Apôtres par ce que saint Luc dit des premières communautés chrétiennes. Donc il suffit de relire. Et donc j'en tirais la conséquence très rapidement en finale que une communauté chrétienne devait être accueillante à cause de sa dimension missionnaire et, donc une paroisse, hein, à cause de sa dimension missionnaire et aussi parce que ceux qui se retrouvent dans la communauté sont d'origine très très diverse depuis les origines. Il faut en même temps voir que dans la Bible elle-même, dans le Nouveau Testament, et en particulier l'épître de Jacques, nous dit que dès le début, il y a eu des difficultés d'accueil réciproque des chrétiens. C'est-à-dire que Jacques dit, comment se fait-il que lorsque quelqu'un vient avec des bagues et des beaux vêtements, vous l'accueillez bien, vous lui dites, monte devant, viens t'asseoir là, et quand un pauvre vient dans la communauté, ben, vous lui dites, place-toi là, debout au fond. Il faut croire qu'à l'époque, les églises étaient bien pleines. Même si ce n'était pas des églises, hein, on priait. Habituellement, les premiers chrétiens ont prié dans les maisons des riches, parce que c'était des grandes maisons. Hein, donc déjà, ça montre bien d'ailleurs cette ouverture qu'il pouvait y avoir, qui dépassait les différentes couches sociales. Et encore aujourd'hui, donc, c'est une mission de la communauté chrétienne que de casser les différentes couches sociales et d'avoir, de provoquer des relations qui sont liées uniquement à la foi en Jésus-Christ. Donc l'accueil, la qualité de la vie fraternelle, hein, ça c'était une autre conséquence, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes amis, hein, dit Jésus. Cette qualité de vie fraternelle, eh bien, il nous faut le travailler dans les communautés de vieille chrétienté, hein, parce que quand on va en Afrique, c'est très différent. Les communautés de jeune chrétienté, il y a une vie fraternelle très forte, parce que déjà, ils sont minoritaires, il y a un élan missionnaire très fort, il y a une joie de croire qui est très prégnante. Les communautés de vieille chrétienté dont nous sommes, eh bien, il nous faut nous réapprendre à avoir une vie fraternelle entre chrétiens, entre nous. Ce n'est pas, il ne s'agit pas de rajouter des choses à notre emploi du temps déjà chargé, mais il y a quand même quelque chose à vivre au niveau de la relation à cause de notre foi en Jésus-Christ. Bon, c'est vrai que concrètement, ce que je souhaiterais, ce qui se faisait un petit peu avant avec l'abbé Jean-Yves, ce que je souhaiterais un petit peu, c'est qu'il y ait, après les Eucharisties dominicales, mais peut-être on va attendre le printemps, des temps de convivialité juste après, qui seraient donc... j'attends le printemps parce que je me dis que c'est mieux de le faire à la sortie de l'église, de façon à ce que les gens restent un petit peu parler, pas trop longtemps, mais ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes, histoire de se parler entre personnes qui peut-être se croiseraient pas dans la vie quotidienne. Voilà, et qui se crée quelque chose comme ça progressivement. Voilà. Et puis, et puis le partage des biens aussi, c'est une caractéristique de la vie chrétienne. Bon, déjà, nous, il y a quelqu'un qui me disait cette semaine que je comprends pas, on est toujours sollicité à chaque messe. Je comprends que on n'est pas non plus riche comme Crésus. Donc on ne peut pas non plus donner... Mais en même temps, c'est vrai que la caractéristique des chrétiens, c'est normalement le partage des biens. C'est-à-dire que l'argent n'est pas leur Dieu, et donc ils en font un très bon serviteur pour aider les pauvres, pour aider ceux qui sont dans le besoin, pour partager entre eux. C'est quelque chose auquel il nous faut être attentif. Voilà. Il n'empêche qu'il y a beaucoup de non-chrétiens qui sont très généreux aussi, ça doit aussi nous interroger. Voilà. Aujourd'hui, ça passe tellement vite que ça fait déjà 5 minutes. Aujourd'hui, je voulais voir un petit peu les différents aspects de la vie d'une paroisse. Alors, ces différents aspects, pour les distinguer, je les distingue en 3 catégories qui correspondent en fait à 3 catégories théologiques, on va dire, qui sont présentes dans la personne de Jésus. Jésus, enfin, on va plutôt partir différemment. Quand on donne le sacrement du baptême, au moment de l'onction de Saint-Crème, on dit à l'enfant qui reçoit l'onction de Saint-Crème, « Désormais, tu fais partie du corps du Christ. » Le corps du Christ, c'est l'Église. Jésus. Et donc, le corps du Christ et l'Église, c'est la même chose. « Tu fais partie du corps du Christ, tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. » C'est les 3 fonctions classiques de la vie d'une communauté chrétienne et de la vie d'un chrétien. C'est pour ça que je vais prendre... Alors déjà, c'est Jésus qui est prêtre, prophète et roi. Jésus accomplit totalement l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a des prêtres, des grands prêtres, qui offrent à Dieu pour réconcilier... qui offrent à Dieu le sacrifice de l'encens ou qui font les immolations d'animaux pour réconcilier le peuple avec Dieu. Il faut lire pour ça l'Épître aux Hébreux, qui est une épître qui explique tout ça, ce passage entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, comme Jésus grand prêtre. Prophète, il y a plein de prophètes dans l'Ancien Testament, et c'est Jésus le grand prophète, c'est lui qui accomplit les prophéties et qui est prophète par excellence, et puis roi. À la suite du roi David, du roi Salomon, tous les grands rois d'Israël, eh bien Jésus est roi. Et parce que Jésus est prêtre, prophète et roi, qu'il accomplit complètement l'Ancien Testament, eh bien les chrétiens, quand ils sont baptisés, ils deviennent eux-mêmes d'autres Christ, et donc ils deviennent prêtres, prophètes et rois. Par conséquence, puisque les chrétiens deviennent prêtres, prophètes et rois par leur baptême, les communautés chrétiennes vivent de ces différents aspects, sacerdotal, prêtre, prophète et royal. Il y a présent dans la vie de la communauté chrétienne ces 3 aspects. C'est manifesté dans la liturgie d'une façon très très claire, ça fait partie des 3 lieux symboliques de l'espace liturgique dans lequel se déroule la prière des chrétiens. Prêtre, c'est l'autel, prophète, c'est l'ambon, et roi, c'est le siège de présidence. C'est les 3 lieux principaux de la célébration liturgique ordinaire. Alors, prêtre, prophète et roi, donc maintenant il faut décliner un petit peu chacun. Être prêtre, ça veut dire, donc manifesté par l'autel, ça veut dire pour le baptisé, déjà prier bien sûr. C'est-à-dire que quand, en tant que baptisé, nous avons tout ce qu'il nous faut pour prier. L'Esprit Saint en nous dit Abba Père. Nous savons prier, nous pouvons prier déjà. Mais ça ne suffit pas. Prier, simplement, nous avons besoin aussi de prier avec notre vie. Et la manière dont nous prierons avec notre vie, c'est de s'offrir, d'offrir notre vie. C'est le sens même du baptême, d'offrir notre vie en sacrifice d'agréable odeur au Père, c'est-à-dire d'offrir notre vie à Jésus. Et à chaque messe, nous sommes invités à le faire à travers le rite qu'on appelle communément le rite de l'offertoire. On offre les dons et nous-mêmes, nous offrons en même temps notre vie à Dieu. Alors c'est exigeant d'être prêtre parce que ça veut dire que déjà on fait confiance en Dieu, parce qu'offrir sa vie à Dieu, il ne faut quand même pas avoir peur de lui. Donc il faut lui faire confiance. Il faut un abandon absolu entre ses mains. Donc l'offrande, et c'est la sainteté ça aussi. Quelqu'un qui s'offre parfaitement à Dieu le Père, il est en état de sainteté. Alors, le baptisé, je vais quand même parler du prêtre, le ministère même du prêtre, ceux qui sont, qu'on appelle les prêtres dans l'Église, les prêtres et les évêques. Alors le prêtre, lui, il a une fonction particulière dans la communauté, c'est qu'il va rendre présent Jésus au sein de la communauté, comme les premiers disciples avaient Jésus. Il va de soi que c'est une représentation qu'on appelle sacramentelle, c'est-à-dire qu'il rend réellement présent et en même temps, en même temps, c'est invisible. Ça reste invisible, parce qu'il va de soi que le prêtre n'est absolument pas... C'est un homme, c'est un baptisé qui a son chemin à faire, et puis c'est un homme avec tous ses défauts, hein, à la différence de Jésus. Mais quand même, sacramentellement, il représente Jésus, et il représente Jésus à travers aussi les sacrements et la prière. Donc, la fonction de prêtre est une fonction importante pour le prêtre, le ministère de prêtre, d'ailleurs c'est pour ça qu'on les appelle prêtres plutôt qu'autre chose, de prêtre, et ils sont invités à travers... en rendant présent Jésus, en particulier dans l'Eucharistie, mais aussi dans tous les sacrements, ils sont invités à aider les fidèles à offrir leur vie à Dieu, à faire confiance en Dieu jusqu'à lui donner leur vie totalement, et donc à grandir dans la sainteté. Ensuite, la communauté, eh bien, la communauté, elle vit cette fonction sacerdotale, cette fonction du prêtre aussi d'une façon... très importante, puisque tous les dimanches, elles se retrouvent pour prier ensemble. Hein, il y a une importance capitale dans la prière des chrétiens. On voit bien, on est prêtre, prophète et roi, mais la fonction sacerdotale est fondamentale, puisque tous les dimanches, on se retrouve pour prier, et notre prière doit être, et c'est là que doit être empreinte de la ferveur même de Jésus, de profondeur, de joie, elle doit être de qualité, voilà, par sa beauté, etc. Et elle doit être fidèle, et c'est un point important sur lequel je reviendrai dans des catéchèses ultérieures, elle doit être fidèle à la prière même de l'Église. C'est-à-dire que nous, communauté paroissiale, nous ne sommes pas une communauté qui faisons notre prière à côté d'autres communautés qui font leur prière. D'autres communautés qui font leur prière. Nous faisons la prière même de toute l'Église, de la première communauté chrétienne qui s'est déployée dans le monde. Et donc, à cause de cela, c'est pas quand on se retrouve pour prier, on prie la prière de l'Église tout entière. Je reviendrai parce qu'en fait, cette prière de l'Église, c'est la prière de Jésus. Donc, on voit bien qu'on est désapproprié quand on vient prier ensemble à la liturgie, à la messe. On est désapproprié de notre prière. Hein. C'est la prière même de Jésus dans laquelle on se glisse. Bon, donc on a cet appel en tant que communauté chrétienne à vivre notre fonction sacerdotale. L'autel est au centre, c'est pas un hasard, hein, c'est que cette fonction sacerdotale est centrale. Les trois fonctions, prêtre, prophète et roi, sont inséparables. Hein. Quand on n'en vit pas une, il y a un truc qui cloche. Il faut toujours se poser la question. Voilà. Mais la fonction sacerdotale est fondamentale, elle est centrale. Donc cette dimension de prière et la liturgie donc, est importante pour la communauté. Elle est indispensable. Puis ensuite, de la liturgie découlent les autres formes de prière, personnelles, seules, en groupe ou en famille. Voilà. Ensuite, la dimension prophétique. La dimension prophétique est manifestée par l'ambon. Alors le baptisé, il va le vivre de deux manières. La première manière, c'est par sa vie concrète, sa manière de vivre sa vie, et va être un enseignement, va être une proclamation. Et là, on voit combien c'est difficile pour nous. Il va être en correspondance avec sa foi. Hein. Enfin, il va tout faire pour ça. Et ensuite, il y a la dimension de la parole. On ne peut pas ne pas dire ce à quoi nous croyons. Pas rester muet. La parole et la vie vont ensemble, doivent être en correspondance, mais les deux doivent se répondre et les deux doivent être proclamés. Il faut que notre parole aussi sache dire donc notre foi. Et c'est le pape Paul VI qui l'a rappelé avec force dans une encyclique, à une période où c'était un peu moins évident. Ensuite, le prêtre, moi, en tant que prêtre, eh bien, j'ai à proclamer l'Évangile, à la commenter, à proclamer l'enseignement de l'Église, mais je crois que je l'ai déjà dit, je ne sais plus en quelles circonstances, mais je n'ai pas à dire ce que je pense. Ce n'est pas mes opinions que je mets en avant, c'est pas l'homme qui pense comme ci, comme ça, qui s'exprime. Normalement, si j'y arrive, il faut prier pour vos prêtres, hein, parce que, eh bien, normalement, je dis ce que l'Évangile dit, tel que l'Église le comprend. j'essaie de dire ce que Jésus dirait. Bon, il y a la grâce quand même, mais quand même, c'est pas facile. En tout cas, si je dis pas ce qu'il faut dire, j'espère que vous, vous entendez ce qu'il faut. Parce que le Saint-Esprit, il peut corriger les trucs, peut-être. Alors, bien sûr, par les homélies, les enseignements, le prêtre fait ça, mais aussi par sa vie. Hein, et c'est une des raisons pour lesquelles, en Occident, les prêtres sont célibataires, c'est qu'à travers le célibat, le prêtre veut dire quelque chose par sa vie. Hein, il veut déjà assumer sa fonction prophétique d'enseignement, sa vie, sa simplicité de vie, son obéissance à l'évêque. Hein, donc là, il y a du boulot aussi. Ensuite, la communauté, hein, la paroisse. La paroisse a une fonction aussi prophétique. D'une part, la paroisse, en tant que communauté, doit puiser la parole. C'est ce qu'on fait pendant la liturgie, on écoute la parole, mais on la médite. Il y a aussi des groupes bibliques qui peuvent se mettre en place. Il y en a déjà un sur la paroisse. Peut-être il y en aura d'autres avec les actes des apôtres pendant le carême, on verra. J'accélère un petit peu. Donc on va méditer la parole, écouter la parole, se former à l'enseignement des pères de l'Église, des docteurs de l'Église, enfin de l'enseignement de l'Église, du Saint-Père et aussi de notre évêque. On essaie d'entendre ce qu'ils disent et de les comprendre. On essaie d'accueillir positivement leurs paroles comme étant une parole pour aujourd'hui qui peut nous aider à avancer. Alors, je reviendrai là-dessus, mais à travers cela, donc il y a la parole de Dieu, la tradition de l'Église depuis 2000 ans, hein, qui n'est pas négligeable, qu'il faut tenir, et puis le magistère, c'est-à-dire le magistère, c'est le discours actuel de nos pasteurs. Voilà. Et donc tout ça, en tant que communauté, ben, nous sommes invités à l'accueillir, à le faire nôtre, à le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des difficultés, ça ne veut pas dire, mais à l'accueillir positivement. Et puis enfin, et c'est un point important, nous sommes invités à proclamer cette parole au monde. Et je pense que dans les vieilles communautés, les vieilles chrétientés, je ne sais plus quel âge elle a cette paroisse. Je ne connais pas son histoire, mais elle a plusieurs centaines d'années, certainement. Hein. Enfin, la paroisse, non, 97, mais bon, l'église, les autres églises, certainement plusieurs centaines d'années. Donc dans les vieilles chrétientés, c'est quelque chose de pas évident, parce qu'on sort d'une période où le christianisme, le catholicisme était dominant dans nos sociétés, et quelque part, la transmission de la foi, la proclamation de la foi, ça se faisait automatiquement. On faisait de la catéchèse aux enfants, puis ça marchait à peu près bien. Hein, certains pourraient en témoigner parmi nous. Eh bien, maintenant, c'est pratiquement fini. Hein, ça continue, bien sûr, pour les communautés, pour les chrétiens qui cherchent à transmettre quelque chose à leurs enfants. Mais quand même, d'une façon globale, c'est fini. Hein, il n'y a que la moitié des Français qui se font baptiser maintenant. Et donc, il nous faut redécouvrir ce que, dans toute communauté chrétienne, ils ont tout à fait découvert ou gardé, conservé, en particulier les communautés récentes, les communautés chrétiennes récentes, c'est la dimension missionnaire. Et il y a quelque chose... là, une dimension missionnaire très importante à redécouvrir et à incarner de façon nouvelle, comme à chaque époque. Et le pape Benoît XVI a dit des paroles très fortes là-dessus. Il demande vraiment qu'on ait beaucoup d'audace sur la manière d'annoncer la parole aujourd'hui dans notre monde. Et ensuite, il y a la fonction royale, manifestée par le siège de présidence. Alors, la fonction royale, eh bien, la fonction royale ne se vit pas comme les rois de ce monde, comme les puissants de ce monde. Hein, notre roi, qui est le Christ, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort sur la croix, et puis au soir du jeudi saint, il a lavé les pieds de ses disciples. Il a dit, vous aussi faites de même. Donc, la fonction royale chez nous, c'est une fonction de serviteur. On l'incarne par le service. Alors, ça se vit à tous les niveaux de notre vie. En tant que baptisé, on est invité à servir nos proches, servir nos époux, nos enfants, servir ceux que nous croisons. En tant que prêtre, eh bien, moi, je suis invité à donner ma vie pour les fidèles, pour la communauté, et à être le bon berger, à l'exemple de Jésus. Je fais vite. Hein. Et puis, en tant que communauté, eh bien, nous sommes aussi invités à servir, à témoigner de la vérité en faisant le bien, à travers les œuvres de charité et tout ça. Alors, ça, on a... C'est quelque chose qui se fait quand même déjà pas mal, même si certainement on pourrait encore faire des progrès. Alors nous servons les plus pauvres. Nous nous occupons, nous nous préoccupons de ceux qui sont malheureux, ceux qui sont les plus oubliés. Alors là, en fonction des, des idéologies dominantes, eh bien, on va avoir les uns ou les autres des sensibilités différentes. Si on est plutôt d'une idéologie plutôt de droite dans le panel politique, si on est plutôt de droite, on va plutôt être attaché à la défense du droit de la vie dès la conception, donc contre l'avortement, jusqu'à la mort naturelle, c'est-à-dire contre l'euthanasie. Je schématise, hein, à gros traits. Mais c'est juste comme ça, pour bousculer un peu, pour nous bousculer. Hein. Si on est plutôt de gauche, on va être très attentif à lutter contre l'exploitation de l'homme par l'homme et à agir pour l'égalité sociale. Alors, la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire la manière dont l'Église nous invite à vivre aujourd'hui, eh bien, c'est tout ça, en fait. Le chrétien, il peut voter dans l'isoloir comme il veut, enfin, pas comme il veut, mais selon sa conscience. Mais dans la vie chrétienne, nous sommes invités à vivre tous ces aspects. C'est-à-dire que tout l'homme nous intéresse, de sa conception jusqu'à sa mort naturelle, et la condition de l'homme dans sa vie aussi nous intéresse. Nous cherchons à faire que les hommes puissent trouver le bien-être déjà ici-bas, un bonheur déjà ici-bas. Et comme le dira beaucoup de saints, Mère Teresa et puis aussi Saint Vincent de Paul, parfois, avant de parler de Jésus, on est obligé de donner un bout de pain. Parce que sinon, ventre affamé n'a pas d'oreille. Voilà. Donc, donc la fonction royale est une fonction très importante aussi. Voilà. Donc, j'ai développé les trois fonctions. Ces trois fonctions doivent continuellement se renouveler sans cesse. Hein, dans une communauté chrétienne, dans notre vie personnelle, dans une communauté chrétienne, on a toujours à se remettre en cause, à se renouveler. Il faut demander ça pour notre paroisse. Hein, c'est pas parce que il y a le Secours catholique, le CCFD, je sais pas quoi, qui font des choses que d'un seul coup, nous, on est en règle en ce qui concerne notre appel à servir les autres, etc. C'est pas parce que la fonction prophétique, c'est pas parce que la catéchèse dans la paroisse, qu'à la messe on écoute l'évangile et que pour autant, à ce niveau-là, on n'a plus besoin de vivre quelque chose de nouveau. Et de même, dans la fonction sacerdotale, c'est pas parce que jusqu'à présent on a toujours fait comme ça qu'il faut que la liturgie soit on continue comme on a toujours fait, mais il faut au contraire chercher à avoir la prière, je parle au niveau de la communauté, déjà personnellement avoir une prière renouvelée continuellement, et puis aussi au niveau d'une communauté, avoir une prière fervente et une prière qui soit de plus en plus fidèle à la prière même de Jésus. Alors, la prochaine fois, je parlerai justement de la liturgie, puisque l'évêque nous invite à vivre cette année en puisant à la source. Donc la source, c'est en premier lieu la liturgie, la prière en général, mais la liturgie en particulier. Je parlerai donc de la liturgie, de ce qu'est la liturgie, précisément, pour nous éclairer pour la suite. J'ai encore été un peu long.